Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Je suis actuellement en présence d'Alice Meunier, bonjour Alice.
Bonjour Alexandre.
Avec moi également Maëlys Clauzel qui décryptera dans un instant, bonjour Maëlys.
Bonjour Alexandre et bonjour à nos auditeurs.
Et aujourd'hui comme tous les jeudis, Arnaud à la technique, bonjour.
Bonjour Arnaud. Alexandre, bonjour à tous.
Dans un instant, chers auditeurs, on commencera cette matinale par un entretien avec Philippe Murer, l'économiste que vous connaissez. Nous parlerons de l'euro numérique. Est-ce un outil de souveraineté européenne? Est-ce un outil de contrôle? C'est la question qu'on lui posera. Ensuite, nous parlerons des néo-ruraux. Vous savez, ces gens qui s'installent à la campagne contre les coqs, contre les cloches, contre les traditions. Nous parlerons de ce sujet. C'est Richard Dessès qui animera l'entretien avec Olivier Vial et Pierre Morel à l'huissier. Voilà. Ensuite, la chronique d'Arthur de Vatrigan. Et puis à 8h20, nous retrouverons Julie Solveig qui nous parlera des dernières enquêtes, des dernières révélations de l'enquête conjointe menée par Logim, Radio Courtoisie, L'Incorrect et Boulevard Voltaire. Nous parlerons de Fier et Queer quand l'État finance la propagande auprès de vos enfants. Et enfin, comme tous les jeudis, il y aura l'analyse de Jean Messia, mais tout cela commence par le bulletin d'actualité. Et c'est avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, à la une de l'actualité aujourd'hui, la mairie de Chécy, en Seine-et-Marne, a été condamnée à verser 6000 euros à un couple dont elle avait refusé de célébrer le mariage. L'affaire remonte au début de l'année. Olivier Bourgeot, alors maire, avait refusé de publier les bans du mariage alors que le futur époux était un ressortissant algérien faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Malgré une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 27 janvier qui l'astreignait à 500 euros par jour de retard, l'édile avait maintenu sa position, soutenue par une partie des habitants. Une fois la date du mariage fixée, l'astreinte pouvait monter jusqu'à 3000 euros par jour. C'est finalement son successeur, Cyril Marceau, qui a célébré la cérémonie en avril. Lors de l'audience du 12 mai, la somme réclamée pouvait atteindre 15 500 euros. Le tribunal a finalement ramené la condamnation à 6000 euros. Cette décision intervient alors que le débat sur le rôle des maires dans la célébration des mariages reste sensible. Écoutons la réaction de M. Algré Pilot face à cette annonce.
Aujourd'hui, la maire de Chécy a été condamnée à verser 6000 euros à un clandestin pour avoir refusé de prononcer son mariage. Et à l'UDR, on considère que les maires ne sont pas des chambres d'enregistrement, mais doivent effectivement vérifier certains éléments et s'opposer à des mariages qui ont pour but manifeste de détourner cette institution et en réalité de faire un premier pas vers une naturalisation.
Et puis la concurrence chinoise pousse au départ volontaire chez Renault.
Eh bien oui, Renault annonce un plan de départ volontaire pour 800 ingénieurs français en France d'ici 2027. Le groupe automobile poursuit sa profonde refonte de l'ingénierie pour faire face à la concurrence chinoise. Après avoir annoncé en avril une réduction de 15 à 20% des effectifs mondiaux d'ingénierie, Renault décline ce plan en France. Sur les 5500 ingénieurs français, 800 postes sont concernés, soit un peu moins de 15%. Le directeur technologique du groupe, Philippe Brunet, a insisté « Il n'y aura aucun départ contraint, seuls des départs négociés ou des pré-retraites sont prévus ». Au-delà de la suppression de postes, Renault veut simplifier son organisation, passage de 44 à 27 blocs techniques, réduction de 30% des documents administratifs et de 20% des réunions. L'objectif est d'aller plus vite dans la conception des véhicules. Plus de 200 000 heures de formation sont prévues avec 500 reconversions et 150 à 200 recrutements ciblés. Le plan a été présenté au syndicat ce mercredi et devrait être mis en place d'ici 2027.
Et puis aux Pays-Bas, l'euthanasie concerne maintenant les enfants.
Eh bien oui, une euthanasie y a été pratiquée pour la première fois sur un enfant âgé de moins de 12 ans. Il s'agit du premier cas depuis l'élargissement de la loi en février 2024 qui autorise désormais l'euthanasie sur les mineurs atteints de maladies incurables provoquant des souffrances intolérables. Le médecin qui a effectué le geste mortel a signalé l'acte à la commission spéciale chargée de contrôler, a posteriori, les euthanasies de mineurs et les interruptions tardives de grossesse. Dans ce cas précis, le consentement des parents et des médecins était requis, la mort de l'enfant était considérée comme imminente et aucune alternative raisonnable n'était supposée exister pour soulager ses douleurs selon le cadre légal, mais les autorités n'ont donné aucun détail sur l'âge exact, le sexe ou la pathologie de l'enfant. Les Pays-Bas sont le premier pays au monde à avoir légalisé l'euthanasie en 2002. Cette pratique s'étend désormais aux mineurs.
Et puis un drame révoltant s'est déroulé à Narbonne.
Bien oui, Louis, un jeune homme de 17 ans placé à l'aide sociale à l'enfance, a été tabassé à mort par 5 individus dans la nuit du 19 au 20 juin. Seul contre 5 sur un chantier, il a été frappé avec une extrême violence. Pire encore, ses agresseurs ont filmé son supplice et ont partagé la vidéo. Ils l'ont ensuite abandonné inanimé au sol. Son corps n'a été découvert que le lendemain. Ce guet-apens prémédité a coûté la vie à un adolescent vulnérable. Parmi les 5 suspects interpellés rapidement par la police de Narbonne, 3 sont mineurs et 2 sont majeurs, le plus âgé ayant 19 ans. Ils ont été mis en examen pour tentative d'assassinat. Une fois encore, l'ASE montre à quel point elle néglige les enfants confiés à sa charge.
Et puis un mot sur la Coupe du Monde 2026.
Eh bien oui, la Colombie a battu hier le Congo à 1-0.
Et bien c'est top. Et pour ce qui est de la météo maintenant.
Eh bien ce matin, après une nuit tropicale, nous atteignions 29 degrés sur tout le territoire français. Et dans l'après-midi, les maximales seront de 39 sur le Grand Est, 37 pour les Hauts-de-France, 30 en Normandie, 42 en Île-de-France et de 31 à 34 autour
42.
Du Golfe et Lyon.
Et pour les saints du jour ?
Eh bien, nous fêtons aujourd'hui Saint-Prosper, Saint-Éléonore et Saint-Guillaume, abbé de Montéverginé, qui contraignit le loup qui avait dévoré son âne à devenir sa monture, sans plus dévorer bête ou homme.
Eh ben, super ça aussi. Merci beaucoup, Alice.
Ligne droite.
Et maintenant, c'est au tour de Maïs d'opérer son décryptage.
Oui, tout à fait, cher Alexandre. Alors, chers auditeurs, alors que nous crevons sous la chaleur insupportable, l'Assemblée nationale, sous climatisation, examine cette semaine pour la troisième fois la proposition de loi sur l'euthanasie avant le vote définitif prévu le 15 juillet. Et déjà, sur France Info, on est pétrifié. Dans un article consacré aux députés encore indécis sur leur vote, le service public se demande si ceux-ci pourraient faire basculer le scrutin et empêcher l'adoption du texte. Curieuse inquiétude, car si de plus en plus de députés hésitent, c'est peut-être parce qu'ils regardent ce qui s'est passé partout où l'euthanasie a été légalisée. Aux Pays-Bas, on nous promettait en 2002 un dispositif exceptionnel réservé à quelques cas extrêmes. Résultat, près de 10 000 euthanasies par an aujourd'hui, soit près de 6% de l'ensemble des décès du pays. Et surtout, sans surprise, les critères n'ont cessé de s'élargir aux adultes, puis aux adolescents et puis aux enfants de moins de 12 ans. Oui, donc vous avez bien entendu, cette semaine, les autorités néerlandaises ont annoncé le premier cas d'euthanasie pratiqué sur un enfant depuis l'extension de la loi aux moins de 12 ans. Voilà pourquoi de nombreux députés français parlent désormais de pente glissante. Une pente glissante qui n'est plus une hypothèse, hein. C'est une réalité tout à fait observable. D'ailleurs, certains parlementaires favorables au texte ont changé d'avis précisément pour cette raison. Ils ont vu apparaître des amendements visant déjà à étendre le dispositif à de nouveaux publics, alors même que la loi n'est pas encore votée. Autre événement passé relativement inaperçu, l'adoption surprise d'un amendement RN supprimant la possibilité pour un médecin d'administrer lui-même le produit létal. Le principe est simple, un médecin est censé soigner, pas donner la mort. « Je ne provoquerai jamais délibérément la mort », rappelle le serment d'Hippocrate. Mais vous imaginez bien, cet amendement a provoqué la fureur du rapporteur centriste Olivier Falorni. Et en parlant de fureur, puisqu'on parle d'Olivier Falorni, rappelons son argument étonnant. Entendu à plusieurs reprises, il faudrait éviter le mot « euthanasie » parce qu'il aurait été utilisé par les nazis. Voilà, donc drôle de raisonnement, même si on n'est plus étonné de grand chose de la part du ventre
dans
mou.
Dans l'euthanasie, il y a nazi.
Oui, aussi. Puis en général, lorsqu'une pratique a été utilisée par les nazis, l'idée consiste plutôt à ne pas la reproduire qu'à simplement changer son appellation. Mais le plus révélateur reste peut-être l'état d'esprit qui entoure cette réforme. Autre exemple aberrant, cette semaine, le député Renaissance Jean-François Rousset plaidait pour accélérer l'adoption du texte en déclarant « Il y a des gens qui sont en train de mourir dans une chaleur torride, il faut les aider ». Autrement dit, on crève de chaud, avançons sur l'euthanasie. Demain quoi? Les hôpitaux débordent, avançons sur l'euthanasie. Les finances publiques sont dans le rouge, avançons sur l'euthanasie. Les EHPAD manquent de personnel, avançons sur l'euthanasie. Une société en bonne santé cherche à soulager la souffrance, mais une société fatiguée finit par considérer le malade comme le problème. Enfin, derrière cette offensive législative se trouve depuis 40 ans un acteur majeur, l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Depuis le début de nos révélations, notamment celle de l'Incorrect parue hier, cette organisation fait aujourd'hui l'objet de sérieuses interrogations sur son financement. Et pour cause, un signalement a été transmis à la justice concernant un système de dons défiscalisés transitant par un fonds de dotation qui reversera ensuite l'essentiel de ses ressources à l'association. Autrement dit, les contribuables pourraient financer indirectement le lobbying en faveur de l'euthanasie sans leur consentement. La justice dira ce qu'il en est, même si on n'attend plus rien d'eux, hein, Dieu sait qu'on a des arguments. Mais une chose est certaine, si les députés hésitent de plus en plus, ce n'est pas parce qu'ils seraient prisonniers d'un quelconque conservatisme, c'est parce qu'ils regardent des faits. Et les faits montrent hélas que partout où l'euthanasie est présentée comme une exception, elle finit par devenir la norme.
Merci beaucoup Maëlys Clauzel.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous allons parler d'euros numériques. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que très récemment, le Parlement européen a approuvé à sa grande majorité une avancée justement dans la mise en place de cet euro numérique. Alors s'agit-il d'un instrument de souveraineté européenne ? S'agit-il d'un outil de contrôle ? Eh bien, nous allons parler de ce sujet avec Philippe Murer. Philippe Murer, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous êtes économiste, cofondateur du mouvement politique citoyen. Et alors aujourd'hui justement, c'est la première question que je voulais vous poser, elle va être extrêmement simple. C'est cet euro numérique, de quoi s'agit-il de manière pratique ?
Alors juste avant de vous expliquer ça, ça n'a pas été voté par le Parlement européen entier, contrairement à ce que dit Aurore Laluc, la députée européenne et la responsable de la Commission économique et monétaire du Parlement européen, ça n'a été voté que par la Commission, qu'en Commission. Mais ceci dit, vu que ça a été voté à 43 voix contre pour et 14 voix contre, on imagine que ça va être voté en juillet. Pour comprendre ce que c'est, il faut regarder qui est la responsable qui se félicite de ça. Aurore Laluc, elle fait partie elle est députée européenne, elle fait partie de Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Elle est aussi artificielle, aussi sans charisme et aussi fausse que son menteur. Et elle nous a dit « Heureuse nouvelle pour la liberté et la souveraineté des Européens ». Donc apparemment, tout va bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet euro numérique ? En fait, c'est comme des espèces, mais c'est dématérialisé. En fait, c'est un euro ensuite qui est émis par la BCE, qui n'est pas émis par votre banque, qui est émis par la BCE, par le compte de la BCE, et qu'on pourra utiliser, par exemple, en le mettant dans un portefeuille numérique. Voilà. Alors, les arguments que donnent les promoteurs de l'euro numérique, hein, qui sont les européistes, c'est, premièrement, c'est numérique, c'est l'avenir, et deuxièmement, vous avez tout à fait raison, ça permet la souveraineté numérique européenne, c'est-à-dire de se passer de Visa et de Mastercard, les géants américains, qui détiennent 60% des paiements électroniques en zone euro, notamment des paiements par carte bleue, par téléphone, etc.
Mais voilà. Simplement, mais pour... avant de rentrer justement dans ce fond du sujet, pour expliquer à nos auditeurs, quelle est la différence justement entre un euro numérique et un euro qui existe actuellement sur un compte bancaire ?
Aucune, si ce n'est que sur un compte bancaire, c'est votre banque qui le détient en fait, vous, qui vous a mis un compte bancaire à disposition, tandis que l'euro numérique de l'Union européenne, c'est un euro qui est détenu par la BCE. Mmh. Donc c'est la BCE qui le détient, qui détient les informations, même si ça peut être mis sur votre compte bancaire, vous visualisez sur votre compte bancaire, mais c'est la BCE. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça n'apporte rien, parce que l'euro numérique, il existe déjà. Vous savez, quand vous faites une transaction par carte bleue, c'est de la monnaie électronique, c'est de la monnaie numérique, ça existe déjà. Quand vous faites une transaction, un paiement, moi je ne le fais pas personnellement, mais par téléphone, eh bien, c'est aussi un euro numérique, un virement que vous faites aussi, c'est un avec un euro numérique, mais privé, quoi, en fait.
Mais alors, voilà, ce que j'allais dire, c'est que la différence actuelle qui existe, c'est que de nombreux pays européens utilisent un système de paiement, donc, qui est plutôt Visa ou Mastercard, donc des systèmes de paiement américains, qui appartiennent donc à ces géants. Et ce que propose donc la Commission européenne, c'est de se passer de ces systèmes de paiement comme Visa ou Mastercard pour passer au système donc de l'euro numérique, qui permettrait donc d'être indépendant des Américains. Donc, dans la théorie, c'est plutôt une bonne idée, non ?
Ah oui, c'est tout à fait le discours qu'ils tiennent, et dans la théorie, c'est une bonne idée. Sauf que déjà, on voit qu'en France, c'est pas vrai, puisqu'en France, c'est le groupement carte bancaire qui gère, en fait, toutes les transactions numériques, et qui sont très largement majoritaires. Mais alors, allons plus loin, c'est pas seulement franco-français, c'est-à-dire que il y a 16 grandes banques françaises, allemandes, belges, etc., qui se sont alliées pour créer un consortium qui s'appelle Wero, une association, qui est en fait le concurrent de Visa et de Mastercard. Et ça marche déjà. Mmh. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, ça marche déjà. Il y a déjà 47 millions d'utilisateurs. Et si on voulait imposer une solution, si le but c'est d'imposer une solution numérique européenne pour le paiement, eh bien, il suffit d'obliger tous les émetteurs de cartes bleues en Europe d'utiliser Wero et de permettre d'utiliser Wero, et le tour est joué et nous sommes souverains numériquement. Donc, on voit qu'en fait, tout ça, tous les descriptifs, tous les avantages théoriques de l'euro numérique, en fait, ce sont des mensonges qui sont émis par la Commission européenne.
Alors, justement, donc, là, en l'occurrence, cette initiative, donc, Wero, est lancée par des banques privées. L'objectif de la BCE avec cette euro numérique, c'est d'avoir une initiative, entre guillemets, publique européenne. Selon vous, Philippe Murer, justement, pourquoi la BCE veut-elle mettre en place une concurrence à quelque chose qui existe déjà et qui est déjà mené par les acteurs privés ?
Tout à fait. Mené par des acteurs privés, en plus, qui connaissent beaucoup mieux le sujet que le secteur public, parce que les acteurs privés, ils gèrent tous les problèmes de fraude, de transactions et de fraude, hein, qui sont graves, qui sont importants à maîtriser avec les systèmes numériques actuels. Qu'il gère depuis des dizaines d'années. Pourquoi l'Union européenne fait ça ? Parce qu'en fait, c'est un projet caché. Il y a un projet caché dedans, parce que, en fait, l'Union européenne pourra tracer tous nos achats. En fait, l'État européen, le monstre européen, pourra tracer tous les achats des Européens avec cet euro numérique, puisque derrière, c'est un registre central, c'est eux qui vont pouvoir voir ce que vous avez dépensé ce week-end, ce que vous avez payé numériquement à un commerçant, ce que vous avez viré à qui et pourquoi. Voilà, donc ça permet un État intrusif, un État européen intrusif qui va tout savoir de vos achats. Alors, mais ce qui va plus loin...
Attendez, oui, Philippe Murer, parce que je vais citer Christine Lagarde, présidente de la BCE. La BCE n'aura pas accès aux données personnelles des utilisateurs et l'euro numérique ne vise pas du tout à remplacer les espèces. C'est ça qu'elle a assuré, justement, avant-hier.
Alors déjà, ils servent à remplacer les espèces, puisqu'en fait, c'est quand même un concurrent des espèces. Ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'elle ne va pas interdire les espèces. Mais l'euro numérique, ça sera un peu comme des espèces, mais en électronique. Le problème, c'est que c'est un registre centralisé pour appliquer les lois anti-blanchiment, etc. De toute manière, ils seront obligés de savoir qui a fait ces transactions. Ça, c'est la première chose. Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ? Parce que avec ce registre centralisé, ils vont pouvoir bloquer les paiements des dissidents, des gens qu'ils n'apprécient pas. Et là, vous pouvez me dire, mais vous êtes quand même complotiste, vous êtes paranoïaque. Mais attendez, combien de médias alternatifs se font débancariser ? C'est-à-dire que leur compte bancaire est annulé. Je ne sais pas si ça arrive à Radio Courtoisie.
Pour l'instant, je crois qu'on en est encore préservé par un coup du sort, mais c'est vrai que c'est arrivé à tellement de monde autour de nous que c'est sans doute qu'une question de semaine. Quoi, mais
bon, je ne vous le souhaite pas, vous avez de la chance, mais c'est arrivé à TV Liberté, qui est quand même un très gros média alternatif en France. C'est arrivé à d'autres médias, c'est arrivé à d'autres personnes. Et en plus, rappelons-nous qu'il y a des sanctions européennes qui ont été prises contre des personnalités publiques, comme l'ancien colonel de l'armée suisse Jacques Beau, parce qu'il n'a pas le même narratif de la guerre en Ukraine. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui travaillait pour l'OTAN avant et pour des journalistes. Et en fait, les sanctions que fait l'Union européenne, la Commission européenne contre ces gens-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est de les priver de comptes bancaires. Donc, on voit que le fait de craindre que la dissidence soit privée de compte bancaire par la Commission européenne et que ce soit un outil de pouvoir est extrêmement important. Mmh. L'autre chose, c'est que cette monnaie, elle a un autre désavantage. Moi, je ne suis pas du tout contre l'État, hein, mais je suis contre donner des pouvoirs trop importants à l'État, parce que qui va tenir l'État, oui. On n'en sait rien, et ça peut être un dictateur, quelqu'un qui a des visées malveillantes. Mais cette monnaie, elle peut être paramétrée. En plus, elle pourrait être paramétrée, c'est-à-dire qu'on pourra vous acheter. Bah, y a une crise en Iran, il y a une guerre en Iran, une crise sur le pétrole et sur l'essence. Donc, en fait, vous pourrez acheter de l'essence que toutes les deux semaines. Ou alors, c'est pour émettre moins de CO2, on va vous limiter vos achats d'essence. Et là-dessus, François Hollande a fait une déclaration qui montre leur volonté de contrôle global, d'utiliser l'outil informatique pour contrôler les gens. Il a expliqué hier qu'en fait... Il faut un compte CO2 pour les gens, un compte CO2 qui permet, à partir de vos achats, de voir combien de CO2 vous consommez. Ben, ça serait optionnel, évidemment, comme l'euro numérique, mais ça pourrait très bien devenir obligatoire et très bien participer à un crédit social à la chinoise, mais implanté dans l'Union européenne.
Et alors, autre question qui est un petit peu, bien sûr, liée à tout ça, c'est que pour l'instant, cet euro numérique, il est censé être totalement facultatif, c'est-à-dire que dans la manière dont c'est présenté, encore une fois, ils disent que globalement, tout le monde aura le choix de l'utiliser ou pas, encore une fois, l'objectif affiché de la Commission européenne n'est pas de supprimer les espèces, en tout cas dans ce qu'ils disent. Concrètement, est-ce que si c'est uniquement quelque chose d'optionnel, c'est si grave, entre guillemets.
Si ça ne reste qu'optionnel, c'est pas gravissime, même si ça sera embêtant, parce que l'euro numérique pourrait, toutes vos transactions par carte bancaire pourraient être surveillées parce qu'elles seraient des transactions à base d'euro numérique. Donc c'est déjà embêtant, mais c'est pas gravissime. Mais à tout instant, ils peuvent rendre cela obligatoire. Et on se rappelle que pendant une période bien dure pour les libertés comme la période du Covid, il y avait des choses qui étaient optionnelles qui sont devenues obligatoires. On nous a vendu des choses optionnelles, comme le pass sanitaire, vous savez, faire des tests pour aller au restaurant, des tests Covid pour aller au restaurant, au cinéma ou des vaccins. Eh bien, à la fin, c'était devenu obligatoire en quelques mois. Donc, c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, c'est qu'une brique parmi toutes les briques que construit l'Union européenne, la Commission européenne, avec les gouvernements européistes. C'est-à-dire qu'il y a la brique du DSA qui a été construite, qui permet de supprimer 3 milliards de contenus par an. 3 milliards de contenus postés sur les réseaux sociaux ont été supprimés par an. On se rappelle que Macron disait d'ailleurs, bah pourquoi pas, puisque de toute manière, la liberté d'expression, c'est du bullshit. C'est lui-même qui l'a déclaré. Ce n'est pas important. Cette même Union européenne, elle est en train de mettre en place l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je ne suis pas forcément contre, mais certainement pas de la manière dont ils l'ont fait, parce que eux, ils le font pour implanter l'identité numérique. Vous serez obligé de vous identifier, et à terme, il est prévu que ça soit une identification numérique. Mmh. Donc entre l'identification numérique, c'est-à-dire comme présenter vos papiers ou présenter votre identité qui laisse des traces partout,
oui,
et qui permet de vous tracer, de vous surveiller, de vous bloquer, mmh, et l'euro numérique est une brique de paiement, bah en fait, le pouvoir va pouvoir vous déconnecter de tout, des réseaux sociaux, d'Internet, de la vie courante, de tous vos achats. Donc, si vous êtes décidant, en fait, l'Union européenne est en train de construire une véritable prison numérique. Et on comprend, l'Union européenne est une catastrophe, en fait. Dans les pays européens, il se passe, la situation est catastrophique, les gouvernements gèrent très mal, l'économie est en train de s'autodétruire, ainsi que l'agriculture, les problèmes de criminalité, d'immigration. Et en fait, ces gens-là ne veulent pas que ces nouvelles se... veulent garder le contrôle maximum, et garder le contrôle en gardant un cap qui est catastrophique, ben la seule manière de le faire, c'est le goulag numérique pour tous.
Mmh. Oui, on comprend que on parlait également à cette antenne il y a quelques semaines aussi du chat contrôle qui rentre également un petit peu dans toute cette ce paradigme. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Muret, d'avoir pu d'abord faire œuvre de pédagogie, je pense, sur des sujets un petit peu compliqués comme celui-ci auprès de nos éditeurs, et puis d'avoir expliqué également, voilà, tous les dangers de cet euro numérique, alors qu'une solution, encore une fois, privée et déjà européenne existe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on vous dit, eh bien écoutez, sans doute à bientôt à la rentrée ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci beaucoup d'être avec nous ici ce matin. Il est 7h24. Dans un instant, eh bien, ce sera le grand entretien avec Olivier Viel et Pierre Morel à l'huissier. Et ce grand entretien sera animé par Richard de Sèze, raison pour laquelle je laisse le micro.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et bonjour Olivier Viel.
Bonjour.
Bonjour Pierre Morel à l'huissier. Olivier Viel, vous êtes spécialiste des radicalités et vous, Pierre Morel à l'huissier, vous avez été député et surtout vous avez été rapporteur de la loi sur la protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Alors tout ça est parti d'une affaire qui a fait grand bruit à l'époque, un coq sur l'île de Ré qui chantait. Et c'était insupportable pour les voisins qui ont exigé que le coq Maurice soit oxy. Et donc ça a déclenché une espèce de scandale national. Et vous avez fini par faire passer cette loi. Comment avez-vous pu, si vous m'entendez, comment avez-vous pu vous emparer de cette affaire et comment avez-vous fait pour faire passer une loi protégeant cette notion qui restait à déterminer de patrimoine sensoriel des campagnes?
Alors, c'est venu effectivement de fait d'actualité avec Mme Fesseau, qui était la propriétaire sur l'île de Léron du coq Maurice. Dans d'autres régions de France, nous avions des abeilles, nous avions des cigales, tout un processus qui faisait qu'on s'apercevait que la législation était un peu taisante. On avait bien la notion de trouble anormal de voisinage. Cette notion a été créée dans le temps par les tribunaux, mais n'avait pas été codifié et surtout défini. Et donc, j'ai demandé avec le service juridique de l'Assemblée nationale de me faire une étude. On s'est aperçu qu'à peu près 18 000 dossiers de conflits existaient en France régulièrement, qui mettaient en cause des préfets, des procureurs de la République, des voisins, bien sûr. Et donc, j'ai rédigé un texte avec l'appoint d'un certain nombre de juristes. Et pour la première fois en France, j'ai soumis ce texte au Conseil d'État. C'est une réforme qui date de 2008. Et le Conseil d'État vous donne une analyse légistique qui vous permet d'approfondir et d'améliorer votre texte. Et ensuite, j'ai saisi la commission de la culture et nous avons passé 3 heures à analyser juridiquement les mots, les termes permettant d'intégrer dans le code civil cette notion de patrimoine sensoriel dans le sens des odeurs et des bruits.
Alors, et cette notion de patrimoine sensoriel rencontre tout de suite un certain succès parce que vous nous dites, en fait, et plusieurs autres députés aussi s'en emparent, voilà, en fait, le chant des cloches, le chant du coq, les sonnailles des vaches, l'odeur du fumier, le fait que les abeilles pollinisent et soient en train de répandre un peu partout sur les vérandas luxueuses installées par les néo-ruraux qui, après avoir vécu une journée confortable de pré-retraités à Lyon, s'installent dans leur bungalow, en fait, n'ont pas le droit en fait, de considérer que la campagne leur appartient.
Alors surtout, l'apport de mon texte exige de la part du juge saisi qu'il analyse le contexte dans lequel se situe le litige. Et quand c'est un contexte de ruralité, je vous rappelle que la France, c'est 80% du territoire français, la ruralité, où ne vivent que 20 millions d'habitants. Mais dans cette ruralité, vous avez à la fois des activités spécifiques à la ruralité liées globalement à l'agriculture, mais vous avez également, et ce que certains ne comprennent pas, quand vous circulez dans le milieu rural, quand vous êtes dans une forêt, quand vous êtes dans une plaine, il y a des bruits spécifiques. Et nous avons voulu, dans le code de la nation, intégrer que les bruits et les odeurs de secteurs ruraux faisaient partie de ce patrimoine. Ce panier intouchable, enfin à respecter. Ça, c'est le grand apport. Et maintenant, les juges doivent vraiment justifier de leur position. Et alors, il est bien clair que quand un bruit est inhérent au secteur rural, toute personne qui s'installe dans ce secteur doit s'adapter à ce bruit. C'est peut-être ça a fait un peu sourire au début quand j'ai fait quand j'ai exposé ce texte de loi, il y a de la boue sur la route, il y a des bruits, il y a des abeilles, il y a des guêpes, il y a de tout, mais ça peut gêner, effectivement, dans la vie de tous les jours, mais ça fait partie inhérente à la campagne. Et la campagne, ça se mérite. On n'arrive pas comme ça et on ne va pas tout démolir. Il faut tenir compte de l'espace dans lequel vous vous intégrez.
Alors, Olivier Vial, vous êtes spécialiste Bonjour. Des radicalités. Il y a des néo-ruraux qui considèrent justement que la campagne, avec ses bruits, y compris mécaniques, ses odeurs qui viennent de l'élevage, ses bêtes qui sont des bêtes domestiques, en fait, n'est pas la vraie campagne et que eux, néo-ruraux, sont les seuls qui ont le droit d'expliquer comment il faut user du paysage français.
Oui, effectivement, on a l'impression que, pour certains, la nature est un décor dans lequel, effectivement, ils veulent vivre avec tout le confort et toute la tranquillité qu'ils imaginent être celle de la nature. En fait, ils quittent souvent un milieu urbain qui, lui aussi, a beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts, beaucoup de conséquences négatives. Hein. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec la canicule, où en ville, c'est plus compliqué. Et en fait, ils imaginent une sorte d'eldorado de la nature. Et donc, quand ils arrivent dans les campagnes, ils ne tolèrent rien qui viennent perturber leurs rêves. Ça va, là, vous avez donné quelques exemples, mais il y a eu un autre exemple en 2023 qui était encore peut-être plus rigolo, qui ne concerna pas directement l'agriculture, mais dans les Côtes d'Armor, il y a un couple qui a été attaqué parce qu'ils avaient une crêperie et les voisins étaient gênés par l'odeur des crêpes. Ils ont été obligés de faire des travaux énormes et malgré les travaux, il y avait toujours un couple qui les attaquait. Et là, effectivement, ça a été un peu la même chose sur le patrimoine sensoriel. On leur a dit qu'effectivement, s'ils n'aimaient pas l'odeur des crêpes, il fallait qu'ils aillent dans un autre département que les Côtes d'Armor. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a cette volonté vraiment d'idéaliser un lieu qui serait un décor où il n'y ait pas d'autres activités que les leurs. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait on s'aperçoit que ça ne concerne pas simplement ces questions de patrimoine sensoriel. Quand on s'intéresse aux grands travaux, aux projets de développement économique qui peut avoir en zone rurale, on s'aperçoit que les principaux opposants à ces projets, ceux qui multiplient les recours juridiques, ce sont souvent des néo-ruraux. Il y a une vraie différence entre les néo-ruraux et les ruraux. Les ruraux, en fait, sont habitués et ils vivent ici depuis longtemps et ils savent que pour vivre ici, il faut qu'il y ait de l'activité économique et donc ils aspirent à cette activité économique, alors que de l'autre côté, effectivement, on a des gens qui sont là pour une sorte de tranquillité qu'ils ont d'ailleurs très souvent idéalisée. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a deux choses qui apparaissent avec ces néo-ruraux. C'est une judiciarisation portée à l'extrême. C'est vrai qu'on a de plus en plus des recours juridiques pour tout et n'importe quoi qui sont souvent, parce que c'est un mode de régulation des conflits qu'on a beaucoup plus en ville qu'avant dans les campagnes où il y avait une sorte de communauté où d'abord les choses se passaient, on allait voir d'abord le maire, on allait voir son voisin et on en discutait. Là, effectivement, il y a cette volonté de faire défendre ses droits, en plus avec une conflictualisation qui est assez forte, puisque ce sont deux, même si très souvent ils peuvent venir du même milieu social, il y a une sorte de conflictualité qui existe. Les néo-ruraux ont une impression effectivement de ne pas être respectés, de la même façon pour les ruraux de l'autre côté, et donc ça a comme conséquence que tout se traite avec une judiciarisation. Et ça, effectivement, c'est sans doute un des vrais phénomènes qui explique ces tensions de plus en plus fréquentes.
Alors, Pierre Morel-L'Huissier, vous avez donc fait passer cette loi qui a été raisonnablement applaudie, mais après, il faut la faire appliquer. Et par exemple, le coq Rico, du côté de Bourgoin-Jallieu, lui, a été attaqué. C'est un procès de 2025. Donc, en 2021, sur la commune de Nicolas Vermel, la voisine d'Alexia et de Franck Charton réclame à la justice le départ de leur coq Rico et 4 500 € de dommages et intérêts parce que Rico chante trop fort. Et c'est... Alors, d'une part, je tiens à donner une triste nouvelle. Rico a été bouffé par un renard, donc on ne sait pas s'il chante trop fort ou pas. Et les juges qui ont été chargés de juger l'affaire se sont déclarés incompétents, en fait, sur le fait de pouvoir délibérer sur la nocivité du bruit de Rico. Ils ont en revanche condamné la voisine en lui expliquant qu'elle avait,
Procession abusive.
Voilà, c'était une réparation du préjudice moral. Et donc, ils ont bien accepté de trouver que la voisine était une mauvaise coucheuse, mais ils se sont déclarés incompétents sur le champ du coq. Avec notamment votre loi sur le patrimoine sensoriel des animaux, on devrait aboutir à ce qu'un juge soit capable de juger du champ des coqs, de l'odeur de l'étable et du bruit des tracteurs.
Oui, ce d'autant qu'entre l'adoption de la loi de 2021, nous avons même au niveau législation complété en intégrant désormais un article spécifique du Code civil sur les troubles anormaux
du voisinage.
Et c'est important parce qu'à partir de cet article, il y a de la jurisprudence qui va se créer. Et donc les juges vont avoir de plus en plus de matière de référence pour analyser. Alors c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué, il faut prendre un huissier ou peut-être un expert qui va calculer les décibels. On va avoir des débats incommensurables sur la cause même du préjudice. Mais aujourd'hui, un juge civil, pour ne pas dire un juge pénal, c'est plutôt un juge civil, a tout loisir, mais il reste, ma loi n'interdit pas le recours. Il ne faut pas non plus rentrer dans la malice. Il faut pas un type qui allume une tronçonneuse à 6h du matin, en zone rurale, il cherche à se faire battre. Il ne faut pas non plus aller chercher la malice. J'ai connu une affaire aussi où on m'avait demandé, parce qu'une fois que vous êtes parlementaire, on vous dit « intervenez dans mon procès et dites que j'ai raison ». Là, il s'agissait de quelqu'un qui avait mis une mare au canard à 50 cm de la clôture du voisin. Non, là, d'abord, une mare au canard, il y a une autorisation administrative et on ne va pas la mettre à 50 cm du voisin. On va peut-être un peu la déplacer pour qu'elle ne gêne pas. Il faut quand même jauger et il ne faut pas que des voisins cherchent la noise. Voilà, c'est pas ça l'objet. L'objet de la loi, c'est de réguler des relations sereines entre des voisins. Je prends un exemple, parce que c'est la base de cette jurisprudence. Quelqu'un qui achète une maison, il y a une salle des fêtes à côté de la maison. Il y a des balles le samedi et le dimanche. Le type râle. Mais il savait, en achetant, que la salle de jeu, la salle de danse, préexistait. Il est de mauvaise foi d'invoquer un préjudice après coup. Il fallait qu'il tienne compte qu'il y avait cette animation. Et donc, les bruits et les odeurs préexistent à la venue de quelqu'un. Et donc, comme disait votre interlocuteur, il faut s'adapter à la réalité, aux réalités de la ruralité. Et elles sont diverses. Quand vous pensez que dans une commune dans le Var, au Bossé, des gens s'installent, viennent voir le maire, tout se passe bien, nouveaux arrivants, et qu'est-ce que vous voulez faire? On vient chercher 50 litres de pesticides. Et pourquoi? Pour éradiquer la cigale. Mais on est en Provence. Le maire est tombé de sa chaise. Et on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un veuille supprimer l'identité même de la Provence. C'est derrière la cigale. Il y a d'ailleurs même une chanson qui est sortie d'un groupe Aioli qui a dit « Parisien ne touche pas ma cigale ». Je l'ai fait passer d'ailleurs dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour donner un peu de corps à la réalité. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les juges du Conseil d'État m'ont dit « Vous avez mis le doigt vraiment sur des problèmes récurrents du quotidien et il était temps qu'on donne une base juridique à ces problématiques-là. »
Alors, ces problématiques sont récurrentes, mais aussi parce qu'en fait, les territoires sont en train de muter. Dans le cas de Bourgoin-Jallieu et du juge Ricot, l'avocat de la plaignante avait expliqué que, en fait, bien sûr, il y a une zone rurale, mais que la zone de litige était faite pour être habitée, n'était pas la rase campagne. En fait, c'est peu à peu l'extension des villes et la modification des usages à la campagne qui rendent en fait cette notion de trouble anormal du voisinage un peu compliquée à appréhender.
Oui, il y a les deux choses à la fois. C'est à la fois une mutation effectivement peut-être des territoires, mais c'est surtout une mutation des hommes qui y habitent et y vivent. On a de toute manière beaucoup moins d'activités agricoles qu'avant, en tout cas d'agriculteurs qu'avant, ce qui fait que la proximité et ce que on avait toujours connu avant paraît plus surprenant, puisqu'effectivement le champ des coqs, il y a eu des années et des années pour plein de gens, ça ne posait pas problème parce qu'ils avaient été habitués à ça. Là, effectivement, quelqu'un qui n'y est pas habitué et qui le voit arriver, ça peut effectivement lui poser des troubles parce que il imaginait une tranquillité absolue. Mais c'est aussi quand même une vraie évolution de la population. Et il y a des départements qui ont été obligés, pour compléter la loi qui avait été faite, de faire des chartes où au moment où on achète un pavillon, il y a une charte à signer reconnaissant que quand on arrive dans ce département, il y a ça et ça, et qu'il va falloir s'adapter à la couleur locale, aux bruits locaux, et les accepter. Être obligé de mettre ça dans une charte, être obligé d'avoir une loi pour ça, c'est quand même une vraie évolution de la société qui est dangereuse. Et sans faire de parallèles qui seraient des raccourcis, mais quand on voit tout ce qu'on a eu sur l'affaire Liana, et où on parle aussi beaucoup de la justice qui est sous l'eau, c'est aussi parce qu'il y a une grande partie aujourd'hui des choses qui avant se traitaient de façon totalement informelle, qui aujourd'hui passe par la loi. Et donc, on a effectivement élargi considérablement le domaine du conflit juridique. Et ça, ça dit beaucoup de choses, je pense, sur notre capacité qu'on a interpellationnée à pouvoir délibérer ensemble, à pouvoir s'expliquer, parce que justement, on n'a plus cette capacité d'argumenter tout de suite. On est dans un conflit qui a l'impression de remettre en cause notre essence. Et ça, on le voit dans beaucoup de sujets, mais chez les néo-ruraux, et moi, effectivement, je suis plutôt ça sur les conflits, quand il y a des installations qui se mettent en place et qu'on voit des néo-ruraux, des fois, c'est d'ailleurs surréaliste, parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils ont... qu'il faut qu'ils défendent cette aspiration à une nature idéalisée, que même s'ils ne sont pas du tout d'obédience écologistes radicaux, etc., ce sont eux qui vont faire appel très souvent à des mouvements radicaux. On a eu pas mal de cas où des gens qui étaient des propriétaires, qui étaient d'ailleurs des avocats plutôt conservateurs dans la région lyonnaise, quand ils achètent une résidence secondaire et qu'il y a un projet juste à côté de leur résidence secondaire, ce sont eux qui appellent Extinction Rébellion et qui vont faire alliance ponctuelle avec Extinction Rébellion pour bloquer les projets. Et ça, effectivement, on le voit de plus en plus, c'est ce côté-là où en fait on va essayer de conflictualiser soit juridiquement, soit quelquefois en utilisant des méthodes beaucoup plus radicales, notamment sur les projets d'installation et d'infrastructure. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu une importation d'un courant qui est plutôt urbain, qui est en plus des populations souvent beaucoup plus diplômées, avec des moyens financiers beaucoup plus importants, ce qui fait qu'il y a aussi une distorsion. Et c'est ce qui explique les choses, c'est qu'effectivement, de l'autre côté, la population locale se trouve un peu dépourvue parce que elle n'a pas l'habitude et elle n'a pas la même habitude justement du procès juridique, parce qu'en fait, pour eux, très souvent, rien que le fait de dire on va signer, on va vous envoyer une brigade de gendarmerie pour venir constater, c'est déjà une sorte d'agression, parce qu'en fait, ils ont l'impression tout de suite d'être coupables, alors que d'autres en face, effectivement, ont l'habitude de traiter avec la justice pour tout et n'importe quoi. Et donc, cette distorsion-là, elle crée effectivement des tensions internes dans ces communautés-là, et ça explique beaucoup la difficulté qu'ont les néo-ruraux aujourd'hui à s'adapter, et on le voit par exemple sur les élections municipales, dans les petits bourgs, les clivages politiques sont de plus en plus des clivages entre néo et habitants de longue date ou fils de habitants de longue date.
Des gens donc qui arrivent là depuis peu de temps, qui généralement ont eu une carrière urbaine. Pierre Morel à l'huissier, dans cette loi que vous faites passer sur la protection du patrimoine sensoriel des campagnes, on voit bien qu'il s'agit de protéger un état de fait, de ne pas en abuser, c'est-à-dire c'est si je possède une ferme avec 200 vaches et que je veux construire une extension pour en accueillir 200 autres, je ne peux pas expliquer que je n'ai pas modifié mon exploitation et donc je ne peux pas exciper de cette loi. Mais en même temps, par rapport aux grands travaux qu'évoquait Olivier Vial, on peut aussi opposer votre loi à ceux qui veulent construire une autoroute, lotir un terrain. Autrement dit, c'est aussi une loi qui peut être utilisée pour freiner en quelque sorte le développement économique d'une région.
Alors j'avais pris la précaution, parce que la loi est un peu plus complexe que ça. Vous avez dans l'article 1er la définition donc d'un patrimoine sensoriel au sens juridique du terme, et puis dans l'article 2, j'ai demandé que l'ensemble des services de l'État avec les régions fassent un inventaire de tout ce que l'on considérait comme patrimoine, au sens patrimoine sensoriel, région par région, département ou région par région. Et donc, c'est les services du ministère de la Culture, de l'inventaire national qui sont à charge de ça, en liaison avec les régions, parce que les régions ont la compétence depuis quelques années sur ce thème-là. Donc, dans toutes les régions, il doit y avoir cette définition. À partir de là, c'est moins problématique d'avoir un panel assez objectif de ce que, de ce qu'est la spécificité de chaque région concernée. J'ajouterai à cela, et votre interlocuteur présent là l'a très bien dit.
Olivier Vial.
Voilà. J'ai constaté, après en 18 ans de mandat de maire, l'évolution de la brutalité des relations humaines, l'interpellation du maire qui se trouve au milieu d'un conflit épouvantable. Et c'est pour cela qu'on a aussi tendu à ce que toute décision, toute procédure soit engagée avec au préalable une médiation, tenter une médiation plutôt qu'une décision immédiate judiciaire. Mais on voit des crispations dans la société qui proviennent d'ailleurs que dans les conseils municipaux, vous aviez il y a 20 ans 1, 4, 5, 6 agriculteurs. Vous en avez aujourd'hui un. Et donc, ce pauvre type se retrouve un peu le seul à vouloir défendre la réalité d'une profession qui s'abîme progressivement parce qu'on perd du nombre d'agriculteurs chaque année dans tous les territoires. Je l'ai dans mon département de la Lozère, mais je le vois partout. Et donc, on voit bien des crispations de plus en plus fortes dans la définition d'un cadre de vie. Et on a des conflits qui sont aujourd'hui permanents. Il est permanent. Il faut une pédagogie. Quand je vois un maire qui vient me voir en me disant, dans une voie communale, je salis ma voiture parce qu'il y a de la boue et de la bouse. Ben, je dis, oui, monsieur, ici, il y a des vaches. On ne nettoie pas les voies communales. Elles sèchent au soleil, il y a de la pluie, elles se nettoient. Il faut s'adapter. On vient me voir en me disant il y a de la neige et je roule sur une route enneigée. Oui, ici, on n'enlève pas totalement, on la presse la neige, on la pousse, mais vous allez rouler sur la neige avec du gravillon qu'on met, du à la pouzzolane. Mais le type, il met un moment à comprendre. Donc, les relations entre élus et citoyens et nouveaux arrivants, c'est compliqué aujourd'hui. Et pour toutes les études que j'ai eu l'occasion d'aborder avec d'autres collègues, il faut un temps d'adaptation dans le milieu rural et des gens qui repartent en disant il y a trop de silence, on s'ennuie, il n'y a pas assez d'activité. Ils regardent même peut-être le pimpon d'un véhicule de secours dans Paris parce qu'ils n'entendent plus ça. Et ils sont en dehors de leur vie traditionnelle. Et donc, premièrement, on s'oppose. Et deuxièmement, on s'adapte.
On s'adapte ou alors on s'en va.
Oui, parce que ça, effectivement, on l'a vu d'ailleurs après le Covid. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup de néo-ruraux qui ont acheté des résidences secondaires. Et on a eu, les mouvements ne sont pas aussi importants, mais on en a eu beaucoup qui sont retournés en ville après, s'apercevant qu'en fait, ce n'était pas aussi facile que ça. Et surtout, ce n'était pas... En fait, le vrai problème, c'est ce que vous avez dit, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'agriculteurs, que les agriculteurs sont moins nombreux. Il y a une vision vraiment idéalisée de la nature, idéalisée de la campagne, et qui fait qu'en réalité, cette vision-là, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Et quand les néo-ruraux sont confrontés à ça, dans un premier temps, ils essayent de combattre la réalité en essayant d'imposer cette... imaginaire de la nature, et donc évidemment pour eux, cet imaginaire de la nature, c'est une nature sans activité économique, et ça c'est un des vrais sujets, c'est que on a dans la campagne, moi je viens de la montagne c'est la même chose, dans la montagne en fait, les néo-arrivants considèrent que le tourisme c'est pas bien, on vit de ça depuis des années, et en fait ça fait partie de l'activité, avoir des antennes 5G, ils sont contre, sauf qu'ils veulent quand même le Wi-Fi. Il y a un moment donné, nous, quand on vit ici, on a besoin d'avoir un niveau de confort qui est équivalent à celui de la ville, parce qu'on y vit toute l'année. Et on y vit pour y travailler et pour développer notre territoire. Donc ça, effectivement, prendre conscience que la nature, où qu'on soit, elle a été humanisée et que et chacun l'a fait avec justement ses traditions, ses activités et en fait d'une façon effectivement historique, et donc il faut prendre et ça la loi le permet, il faut prendre conscience de cette histoire des territoires pour qu'elle puisse se perpétuer tout en continuant à se développer et ne pas être simplement un musée dans lequel certains néo-ruraux peuvent effectivement espérer une retraite paisible ici dans ces territoires-là. Il y a des gens qui y vivent et qui y travaillent.
Dans ces territoires-là, il y a des gens qui vivent, ils travaillent. On y reviendra juste après la chronique d'Arthur de Vatrigan, qui nous rejoint à l'instant. Donc Pierre Morel à l'huissier, Olivier Val, restez avec nous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et donc Arthur de Vatrigan est en train d'arriver. Voilà, je vois l'écran qui peu à peu s'illumine. Bientôt, son visage barbu va apparaître. Il est là, le voilà. Bonjour Arthur de Vatrigan.
Bonjour Richard.
Alors, nous parlions du patrimoine sensoriel des campagnes, des néo-ruraux qui font braire, mais peut-être allez-vous nous parler d'autre chose.
Oui, je vous propose qu'on continue de dévoiler la contre-enquête contre l'écosystème de gauche, qui vit beaucoup, en plus de subventions, de dons défiscalisés, lancés lundi à votre micro, on l'avait parlé de l'Institut de la Boétie. Et là, je vous propose de vous parler de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, puisque l'euthanasie est en débat à l'Assemblée et que ceux qui poussent au maximum ce texte, quitte à flinguer un par un tous les garde-fous, c'est l'ADMD. Alors, l'ADMD ne s'en cache pas, depuis 1980, elle milite pour que le Parlement légalise et l'euthanasie le suicide assisté. C'est son objet affiché, c'est sa raison d'être, c'est aussi sa fierté, mais c'est aussi le problème sur le terrain fiscal. Parce qu'une association dont l'activité principale est de peser sur une loi, on peut se poser la question de savoir si elle peut recevoir des dons déductibles, c'est-à-dire si elle est d'intérêt général. Alors, on a posé la question à Philippe Loéac, qui est le directeur général. Il nous répond, il n'y a pas de problème. La DED est une association d'intérêt général, nous dit-il, car, je le cite, « nous avons envoyé un rescrit au fisc ». Alors là, on se dit, soit il est sacrément gonflé, soit il ne maîtrise pas des masses le sujet, puisque le rescrit, je rappelle, c'est la réponse que le fisc envoie lorsqu'on vous pose une question, en vous demandant, par exemple, si vous êtes une association d'intérêt général. Donc poliment, on lui souligne les tranchées de sa réponse. Là, il balbutie, puis s'embrouille un peu. Il dit, ouais, mais en fait, j'ai confondu le rescrit avec la déclaration d'intérêt général envoyée par l'association. Je dis, alors, vous allez née où cette déclaration? Vous avez une réponse? Là, rien, pas de réponse. Donc là, on va entrer dans le dur. Parce que être d'intérêt général permet donc de défiscaliser les dons à hauteur de 66%, vous le savez. Et donc, l'OEAC affirme que la SOS est d'intérêt général. Mais, aux surprises, la défiscalisation, elle passe pas par l'association. Elle passe par un fonds de dotation. Alors, c'est lui qui encaisse les dons et qui émet les reçus. Donc, sur sa propre page de collecte, l'ADMD, écrit noir sur blanc, les sommes versées au fonds sont intégralement reversées à l'ADMD. Alors, il y a eu un signalement à la justice, évidemment, consulté par notamment le journal du Dimanche en mai 26, qui confirme et qui évoque que plus de 96% des dépenses du fonds seront versées à la SOS. Donc, le fonds n'est pas philanthrope. Il n'est pas, c'est pas un philanthrope autonome finançant des projets généraux, puisqu'il fonctionne en fait comme un simple guichet de défiscalisation au service d'une seule association. Or, ce mécanisme n'est légal que si les fonds soutiennent des activités d'intérêt général au sens de l'article 200 du Code général des impôts que vous allez vérifier plus tard. Et c'est là que le bas blesse. Parce que lors d'une audition au Sénat, la Direction générale des finances publiques a rappelé un principe sans ambiguïté, je cite, « le plaidoyer seul ne correspond pas à une action concrète en direction d'un public » et ne suffit pas à fonder l'intérêt général. Et donc, c'est une doctrine qui rejoint la jurisprudence du tribunal administratif d'Amiens, selon laquelle une activité de lobbying prépondérante n'est pas d'intérêt général. Or, l'ADMD consacre près d'un million d'euros par an à ses actions de lobbying et de plaidoyer législatif. Et le point le plus embarrassant, il vient de l'intérieur même de l'ADMD. Le sénateur Ravier a écrit au procureur de la République en mars 26 pour lui signaler que l'ADMD n'est reconnu ni d'utilité publique, ni d'intérêt général. On attend toujours la réponse du procureur. On les a connus un peu plus rapides sur certains autres sujets. Situation que Philippe Loéac, donc le directeur général, ou le délégué général, plutôt conteste. Tu m'étonnes, si cette qualification fait défaut, c'est tous les défis qui s'écroulent. Parce qu'un fonds de dotation ne peut reverser ses ressources qu'à une structure, elle-même évidemment, d'intérêt général, et donc reverser 96% à une association qui ne le serait pas, bah reviendrait à financer par le contribuable une entreprise de pur plaidoyer politique, et forcément ça, c'est pas bien, et quand on se fait retoquer, c'est 3 ans d'amende à hauteur des dons qu'on a défiscalisés. Maintenant, on va revenir aux arguments un peu curieux de l'Oréac. Le délégué général nous affirme donc que, je rappelle, l'association est d'intérêt général, si elle y tient beaucoup, mais on attend toujours la preuve. Dans ce cas, on dit, bah, pourquoi l'association n'émet-elle pas elle-même des reçus fiscaux? Et pourquoi ça passe par un fonds de dotation? Alors nous, on avait un peu bossé le truc avant, on dit, bah, fonds de dotation, ça permet par exemple à des actifs sur le compte de les faire fructifier. Selon nos informations, il y a 6 millions d'euros d'actifs sur le compte. Ça permet de toucher des dons défiscalisés à plus de 75%, et ça permet aussi de récupérer des legs, ce que ne fait pas une association. Mais là, il nous répond, non, on a préféré faire comme ça. Très bien, on assiste un peu par curiosité. On est curieux, on est journaliste, on insiste. Et là, il nous répond, notre avocat l'a conseillé. Alors, bon, comme on fait bien notre boulot, on a dit, bah, nous aussi, on a consulté plusieurs avocats ultra spécialisés, et ils nous expliquent, ils sont très clairs sur le sujet, il y a un vrai problème. Et on lui explique tout ça, et sans sourciller, il nous répond, oui, mais en fait, vos avocats sont partiaux. On ne lui avait pas donné le nom des avocats. Il dit, alors, bah, ok, très bien. Et c'est qui votre avocat? Là, il nous répond, Étienne Desoulières. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le type, mais il est spécialiste pour, en fait, attaquer régulièrement des associations, des partis politiques ou des personnalités, des journalistes, par des procédures bâillon. Il a été formé, vous savez, à l'école nord-américaine, et il ne cache pas non plus son militantisme. Si un jour, si vous vous retrouvez au tribunal face à SOS Homophobie, Mousse ou Stop Homophobie et toutes les autres associations LGBTQ, toutes les consonnes que vous ajoutez, ben en face de vous, c'est Maître Desoulières que vous aurez. Donc, un avocat, vous l'aurez compris, totalement impartial. Donc, pour finir sur le troisième problème, il y a un problème de gouvernance commune entre l'association et son fonds de dotation, les mêmes mains des deux côtés du guichet, ce qui prive le dispositif de la dépendance qu'il est censé garantir. Et ensuite, bah, vous avez évidemment l'absence de publication des comptes, ça serait dommage de le publier, malgré une collecte de dons importants. Donc là, c'est une opacité qui, là encore, contrevient aux obligations de transparence. Donc je résume. Une association dite d'intérêt général, mais qui fait du lobbying sur un seul sujet. Un fonds de dotation qui finance exclusivement une seule association d'intérêt général suspect. Une gouvernance commune qui prive le dispositif de l'indépendance qu'il est censé garantir. Et l'absence de publication au journal officiel, malgré la collecte en effet importante de dons, je vous le dis, plus d'un million qui finance par an le droit à seringuer les vieux et les cancéreux. Donc, en saisissant la justice sur le fondement de l'article 40, le sénateur Ravier a transformé une question de principe en affaire pénale. À ce stade, il s'agit d'un signalement soumis à la présomption d'innocence, comme on dit. Donc, il appartient au parquet, puis le cas échéant, à l'administration fiscale, de dire si les reçus de l'association pour le droit à mourir dans la dignité reposaient sur du vent. Et je vous annonce, camarades de 16, que d'ici une heure, on passe au tour d'SOS Racisme.
Ah.
Donc on fera quelque chose évidemment sur l'antenne, et en attendant, le papier sortira sur l'incorrect.org, parce qu'on s'est dit, bon, autant continuer. Donc ça va être une association par jour, au moins jusqu'au 10 juillet, et si la canicule ne nous a pas tués d'ici là, ben, on continuera.
Et j'espère que la canicule aura le bon goût de s'arrêter à votre porte. Dans le cas de ces associations, donc vous nous avez parlé de la DMD, effectivement on a déjà aligné l'Institut La Boétie. Tout à l'heure, Julie Solveig nous parlera de Fier et Queer. Il y a en fait des dizaines d'associations de gauche qui mériteraient qu'on enquête sur la pertinence de leur qualité d'intérêt général, et surtout qui doivent faire l'objet d'enquêtes précises sur l'égalité des mouvements financiers qui permettent de les financer.
Tout à fait, bah, vous êtes bien au courant, puisqu'on travaille ensemble avec Radio Courtoisie, le GYM, Boulevard Voltaire et l'Incorrect. On a passé quand même 300 associations au crible. Et on a retenu, parce que nous sommes rigoureux, plus de 50. 50 qui sont plus que douteuses. Donc, on avance sur ces 50 associations, ce qui fait quand même pas mal de choses, sachant que je rappelle, le don défiscalisé en France, c'est 3,7 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas des subventions. Mais disons que c'est des recettes dont l'État se prive. En ce moment, ils nous font les poches. Ils nous font tellement les poches qu'on va finir en quel but. Alors, bon, il fait 40 degrés, ce ne sera pas gênant, mais quand l'hiver va revenir, ça va être compliqué. On se dit, bon, s'il y a au moins une cinquantaine d'associations qui fraudent, et si elles fraudent à hauteur de plusieurs millions par an, ça commence à devenir douteux. Donc, bah, en tant que journaliste, on fait le boulot que la justice devrait faire, mais bon, il paraît que la justice manque de moyens et que voilà, ils ont autre chose à faire, ils pleurent et puis ils doivent aujourd'hui s'affronter Gérald Darmanin. Bon, bah, j'espère que tout le travail qu'on mène avec Radio Courtoisie, Logim, Boulevard Voltaire et l'Incorrect, bah, donnera envie à, au fisc, à l'administration fiscale et même un peu plus à certains procureurs de vérifier si toutes les associations bah, sont réglo, parce que là, on parle de l'intérêt général, c'est pas rien. Alors, il semble que ça a quand même un mot qui est un principe important, qui est une définition, même parfois qui mérite interprétation, mais en tout cas, il y a quand même des critères très précis de savoir ce qu'on est l'intérêt général ou pas. Et dans les associations ciblées, bah, ces critères n'existent pas. Et puis après, c'est une question d'argent. Je rappelle, 3,7 milliards de dons défiscalisés, c'est quand même ça en moins pour l'État. Et en ce moment, on cherche de l'oseille partout.
Alors, on cherche de l'oseille partout, y compris à Radio Courtoisie, mais nous, ça fait 39 ans qu'on dépose nos comptes chaque année et qu'il est évident qu'une radio culturelle et politique est une radio d'intérêt général, surtout une radio qui permette de défendre vos opinions. Et comment fait-on pour subventionner légalement et en toute transparence cette radio ?
Une radio qu'il est important de soutenir, effectivement, Richard. Vous pouvez le faire en ligne si vous souhaitez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr. Et puis, vous pouvez également nous adresser vos chèques à Radio Courtoisie. 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et nous allons repoursuivre notre entretien avec Olivier Vial et monsieur Pierre Morel-Aluissier et Arthur de Vatrigan.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, nous parlions donc du patrimoine sensoriel des campagnes, nous parlions des néo-ruraux qui viennent s'y installer et qui ont l'impression qu'en fait, ils sont plus chez eux que ceux qui y habitent déjà. Et je me permets de vous souligner un témoignage qui est celui de Jacques Terpan, grand auteur de bande dessinée, qui est installé dans le même coin depuis quelques siècles, en fait. Alors, pas lui, sa famille, mais donc visiblement, il sait ce que c'est. Il débroussaille régulièrement et évidemment, il brûle les broussailles. Donc, je me débarrasse par le feu. On ne peut pas laisser traîner des branches, des épineux secs dans les pâtures. Je n'ai pas le choix. C'est inaccessible. C'est exactement ce qui se passe dans les montagnes. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller voir l'excellent documentaire La ferme des Bertrands, où on voit comment ce que ça fonctionne. Parmi les gens venus ici en sabotant un peu de paysage et de terre, il y a des écologistes très militants. L'un d'eux en est à sa deuxième intervention chez moi, me conseillant d'emmener mes déchets à la déchetterie. Devant l'impossibilité technique, il me conseillait très habilement de les répandre dans le sous-bois. C'est-à-dire, donc, vous débroussaillez et donc, après ça, vous baignez dans le sous-bois toutes les ronces et autres branchages, épines. Évidemment, ce sera très efficace. Une bricole dans un terrain en pente à 20 ou 30% sur 3 ou 4 hectares. Comme je lui ai remarqué que l'apport d'humus favorise la ronce et que la ronce, c'est contre cela que je lutte, et qu'après la ronce viennent les espèces conquérantes et que la forêt avance, et que c'est précisément contre quoi je lutte, il me demande si je lis des livres. Je lui dis que je sais lire, que c'est même mon métier. Il me dit « Je sais, je conseille votre dernier livre à tout le monde. Je lui ai conseillé du coup de le revendre et de ne plus en parler, car il a des lecteurs qui me font honte. » Et donc, j'ai trouvé ça absolument admirable, ce néo-rural qui explique, voilà, la manière traditionnelle qu'on a d'entretenir un paysage est une mauvaise manière et qu'en fait, il vaut mieux que la forêt gagne partout, que la broussaille gagne partout, que d'ailleurs la biodiversité recule, parce que sinon, ce sont ces principes qui consistent à ne pas brûler les mauvaises herbes qui risquent d'en pâtir.
Oui, mais effectivement, alors ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment se développer. Il y a ce mythe du réensauvagement qui, pour le coup, est vraiment un mythe d'écologistes radicaux et de gens qui viennent plutôt des sciences sociales que justement des botanistes ou des agriculteurs et qui vont effectivement nous dire que il faut ne pas couper les herbaras, qu'il faut éviter de débroussailler pour permettre à une petite faune de s'évoluer. Sauf qu'en réalité, en faisant ça, et on l'a fait, il y a eu deux conséquences. Ce qui s'est passé, les grands incendies de la forêt de Teste de Buch dans les Landes, c'était essentiellement lié à ça. C'est que pendant des années...
Les incendies d'il y a un ou deux ans, là.
Pendant des années, en fait, on avait eu, sous la pression des écologistes, l'idée qu'il fallait arrêter de débroussailler pour permettre à, justement, une vie du sol de réapparaître. Sauf que quand on fait ça, c'est un accélérateur d'incendie extraordinaire. De la même façon, aujourd'hui, on est en train d'avoir des pics de population de tiques, avec notamment la maladie de Lyme qui se développe. Et en fait, ces pics-là, ce développement des tiques, il est essentiellement lié au fait que dans beaucoup d'endroits, maintenant, on ne débroussaille plus. Et donc, ces hautes herbes qui sont développées ou ces branchages qui restent par terre, c'est des habitats extraordinaires pour les tiques. Et effectivement, ce que avant on faisait pour nettoyer justement la nature, parce qu'en fait, et ça aussi, c'est là où on voit la différence entre deux conceptions. Les gens qui vivent à la campagne, ils habitent la nature. Et donc, quand on habite la nature, on la civilise un petit peu quand même, on la rend habitable. Et en fait, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour une partie des écologistes et des urbains qui ont un mythe de la nature totalement idéalisée, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Sauf qu'en réalité, c'est l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours essayé d'habiter la nature en la rendant, à la fois en la défendant, mais en la rendant habitable. Et tout ce qui a été fait pendant des années, justement, pour débroussailler, pour...
Défricher
dans certains endroits. On a même eu des associations, qui notamment l'Aspace, qui achètent des terrains pour les réensauvager. Et quand ils veulent réensauvager un terrain, effectivement, ils arrêtent le débroussaillage, ils suppriment tous les dispositifs anti-crues et anti-incendie, parce qu'ils considèrent effectivement, et c'est un petit peu comme votre exemple, ils considèrent que un incendie, une inondation, ça fait partie de la nature, c'est un moyen de réguler la nature. Sauf que quand on habite là, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, et en plus ça a des conséquences sur la biodiversité locale, ça a des conséquences sur les espèces très importantes. Mais effectivement, on a ces deux visions là une vision d'une nature qu'on va protéger pour l'habiter, mais donc la rendre habitable, et d'autres qui considèrent que il faut réensauvager la nature, qu'il faut revenir à une nature idéalisée, parce qu'une nature qui n'aurait plus de traces d'anthropomisation, qui n'aurait plus de traces d'humanité, en réalité, ça n'existe quasiment plus. Et c'est souhaitable. Ça fait des millénaires que l'homme, justement, fait en sorte de rendre la nature habitable, et que si demain, on veut que la nature reste habitable et que la nature soit protégée, il faut que l'homme prenne ses responsabilités.
Pierre Morel, à l'huissier, dans cette protection du patrimoine sensoriel des campagnes, il y a évidemment cet aspect patrimonial, il y a un aspect culturel. Vous nous avez parlé des inventaires qui sont censés être lancés. Si je ne m'abuse, la chose avance lentement. Avez-vous été soutenu par les écologistes? Est-ce que c'est une loi qui est transpartisane, qui a déchaîné l'enthousiasme de tout l'hémicycle, ou au contraire, est-ce une loi qui a rencontré des résistances politiques?
Alors, la loi a reçu un accueil à 100% au niveau parlementaire, très curieusement. Enfin, je n'ai pas vu d'environnementaliste, d'écolo prendre la parole là-dessus, mais en tout cas, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat. Elle a été même votée conforme au Sénat, ce qui a permis de réduire. Par contre, ce que vous dites sur l'ensauvagement et sur des pratiques écolo, on le vit dans les départements ruraux, je le vis chez moi. On a été même obligé de classer l'élevage au vin au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire le pastoralisme, parce que bientôt, on ne pouvait plus rien avoir. Parce que mon gros problème, et ça explique ce que vous dites sur les inventaires, c'est qu'on a une administration de l'environnement, un ministère de l'environnement, de l'écologie, je ne sais pas, le terme change régulièrement, qui ont été complètement vérolés, et qui sont anti-tout. Et dans ma loi, je sais bien qu'elle a gêné. Mais comme c'était une proposition de loi sur laquelle ils ne pouvaient pas bloquer le système, elle est passée à l'Assemblée, elle est passée au Sénat, elle a été votée. Mais les inventaires, il y a de la résistance de l'administration centrale qui ne se bouge pas. Et puis je vois bien que dans la réalité, les administrations locales sont peu volontaire sur l'application de cette loi. Et donc, c'est un combat permanent qu'il faut mener, et nous sommes un certain nombre de parlementaires et un certain nombre d'élus locaux à le faire, mais c'est quand même assez compliqué. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans un département comme la Lozère, où on n'avait plus aucun problème de la présence du loup, aujourd'hui, on a le loup, qui est un loup italien, qui a dépassé les frontières, et qui vient se réinstaller dans le département de la Lozère, dans celui de l'Ariège, dans celui du Cantal, de l'Aveyron. Et on a aujourd'hui des conflits permanents. Et vous ne pouvez plus laisser un troupeau de 300, 400 ou 500 brebis seule la nuit. Vous êtes obligé de les rentrer. On prend des patous, des chiens spécialisés. Mais les patous, ça peut aussi provoquer quelques petits problèmes. Et donc, vous voyez, entre la différenciation des conceptions, on crée des problèmes. Certains créent des problèmes là où il y avait un consensus pour qu'un agriculteur, un éleveur puisse travailler. Moi, je vois des éleveurs arrêter d'avoir des troupeaux à cause du blocage sur l'éradication du loup. Alors, il ne s'agit pas de tuer tous les loups, mais de les réguler. Quand vous en avez 4 ou 5, ça ne pose pas de problème, mais quand vous en avez maintenant 30, 40, 50 dans un département, c'est catastrophique. Et en Lozère, c'est le cas.
On avait reçu d'ailleurs un des agriculteurs qui notamment a inventé, entre guillemets, la race de blanc d'Écosse et qui nous avait parlé de son combat contre le loup, mais aussi contre les administrations qui ne font pas leur travail et contre les écologistes qui, là aussi, sont obsédés par une réintroduction du loup comme si il avait une vérité dans le loup. Arthur de Vatrigan, quand on vous parle de patrimoine sensoriel des campagnes et de la difficulté qu'ont les néo-ruraux à cohabiter avec les vrais ruraux, avec les campagnards, ça vous inspire quelle réflexion ?
Ça me rappelle un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus qui l'a écrit. Parisien en exil, je crois. Un bouquin vachement drôle, vachement bien. Je vous conseille de lire, chers auditeurs, qui montre très bien l'escroquerie des néo-ruraux. En fait, ils me font penser, vous savez, à ces E.T. dans Independence Day, quoi. Les types, ils débarquent sur un endroit, parce qu'ils ont flingué leur endroit avant, quand même. Hein, parce que si les néo-ruraux débarquent, c'est qu'ils ont flingué les villes. Hein. Ils arrivent, et puis ils disent, bon, on va faire ça, on va faire ci. Ça flingue, et puis après, ils vont flinguer une autre planète. En fait, c'est l'espèce de puce qui saute, mais à chaque fois qu'ils sautent, ils partent, ils ont détruit l'endroit où ils sont. Alors moi, je pense qu'avant qu'un écolo ouvre la bouche, on lui fait 3 mois de stage dans le Vercors ou dans le Montana. Et puis dès qu'il aura fait ça, son diplôme, on dira « Ok, maintenant tu peux parler ». Les types, ils vivent que sur du papier. C'est des escrocs, quoi. C'est des escrocs nocifs. Donc il faudrait faire une loi anti-écolo. Voilà, avant de parler, prouve.
Bon, pour la prochaine mandature, si jamais des députés nous écoutent, ils savent quoi faire. Olivier Vial, on a parlé de ce patrimoine sensoriel des campagnes, mais en fait, il y a quelque chose dans les radicalités que vous étudiez qui est plus dangereuse. C'est aussi la manière, en fait, de considérer que on peut incendier des engins de chantier. Dire, c'est pas juste un procès, c'est aussi l'action violente, en fait.
Oui, alors ça c'est autre chose. Alors là pour le coup, c'est quelquefois des néo-ruraux. Aujourd'hui, effectivement, on a un autre problème dans les campagnes, c'est ce qu'on appelait la ruralisation de l'ultra-gauche. En réalité, aujourd'hui, les mouvements les plus activistes et les plus radicaux de l'extrême-gauche, qui longtemps étaient plutôt dans les centres urbains, se sont ruralisés. Et aujourd'hui, on a, en France, le chiffre date maintenant de 4-5 ans, à environ 1500 communautés autonomes qui vivent sur le territoire. C'est des communautés de 10, 20, 30 personnes qui essayent de vivre en dehors du système actuel et qui très souvent vivent aussi avec une idéologie extrêmement radicale et qui sont l'endroit où on recrute le plus d'éco-terroristes. Et effectivement, depuis quelques mois, on a une multiplication très importante des sabotages et avec une augmentation de la radicalité de ces sabotages, c'est-à-dire qu'on est passé de quelques actions de vandalisme à l'utilisation plus fréquente d'incendies volontaires. Et depuis quelques mois, on a le retour d'engins explosifs qui sont mis en place, ce qui montre effectivement à la fois une professionnalisation et à la différence, par exemple, de ce qu'on a beaucoup entendu des mouvements antifa, qui sont plutôt eux urbains, extrêmement présents sur les réseaux sociaux et très suivis par la police. Ces mouvements d'éco-saboteurs qui sont dans les espaces ruraux sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus difficiles à trouver, et ça explique que ces dernières années, les grands sabotages qui ont été commis, que ce soit celui du réseau SNCF avant les Jeux Olympiques ou celui du réseau électrique avant le Festival de Cannes l'année dernière, on n'a toujours aucune piste pour essayer de savoir qui est responsable de ça. Et le nombre de sabotages, il est aujourd'hui... moi, j'ai donc une lettre qui s'appelle la lettre des radicalités. On recense 1 à 2 sabotages par semaine. Et quand on parle de sabotage, c'est quelquefois des sabotages qui... ont un coût, un impact financier de plusieurs dizaines de millions d'euros, comme ça a été le cas dans la région de Tours, de Bourges, pardon, il y a quelques semaines. Donc effectivement, on voit que c'est de plus en plus fréquent. Je rajouterais juste une dernière chose. On a beaucoup parlé des néo-ruraux. Alors il y a une autre, dans le patrimoine, il y a autre chose qui en se passe, c'est la Nouvelle-France. Et avec... une remise en cause de notre patrimoine culinaire et gastronomique. Et là, effectivement, on voit de plus en plus, moi j'étudie ça aussi, j'ai une lettre qui s'appelle La France dans une assiette, où on a de plus en plus de fêtes de village, de festivals du jambon, etc., qui sont attaqués et menacés par des gens qui considèrent que ce n'est plus assez inclusif et que notre gastronomie n'est pas inclusive.
Bah, et ben effectivement. Merci beaucoup Olivier Vial, et on refera une émission juste là-dessus. Merci beaucoup Pierre Morel à l'huissier, d'abord pour votre loi et ensuite pour votre témoignage de maire rural. Et merci Arthur de Vatrigan. Je ne vous dis pas à tous à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, Ligne droite s'arrête. Mais à très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h14. Dans quelques instants, eh bien, nous passerons à l'entretien avec Julie Solveig, qui nous parlera de Fier et Queer, l'État qui finance la propagande auprès de vos enfants. Juste avant la chronique d'Alice Cordier, mais tout de suite, nous allons passer à un point sur l'actualité avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, à la une de l'actualité aujourd'hui, la mairie de Chessy en Seine-et-Marne a été condamnée à verser 6000 euros à un couple dont elle avait refusé de célébrer le mariage car le futur époux faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et Renault planifie un plan de départ volontaire pour 800 ingénieurs en France d'ici fin 2027. L'entreprise poursuit sa refonte du personnel face à la concurrence chinoise. Et aux Pays-Bas, une euthanasie a été pratiquée sur un mineur de moins de 12 ans. Le jeune garçon était atteint d'une maladie incurable et subissait de fortes douleurs. Et nous fêtons aujourd'hui Saint Prosper, Saint Éléonore et Saint Guillaume, abbé de Montevergine, qui contraignit le loup qui avait dévoré son âne à devenir sa monture, sans plus dévorer bête ou homme.
Merci beaucoup Alice.
Ligne droite.
Et tout de suite, nous retrouvons pour sa dernière chronique de la saison à Alice Cordier. Alice Cordier, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour Alexandre. Oui, est-ce que vous m'entendez bien ?
Très bien, très bien. Alors, on vous écoute.
Oui, aujourd'hui, je voulais vous parler de Louis parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas et qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose au demeurant, il y a un jeune homme qui, dans la nuit de vendredi à samedi, à Narbonne, a été lynché à mort sur un chantier. Il avait 17 ans, il a été lynché par 5 racailles. En tout cas, aujourd'hui, il y a 5 garçons âgés entre 16 et 18 ans qui sont en garde à vue, qui ont été placés en détention provisoire pour assassinat. Louis a été abandonné sur un chantier par ses assassins, alors qu'il agonisait. Au lieu d'avoir une prise de conscience, hein, ce qui aurait pu arriver en voyant l'état dans lequel il était, ils ont préféré prendre des vidéos de Louis en train d'agoniser, on entend des râles d'agonie. Ils ont préféré faire des selfies et des vidéos au-dessus de son corps et de diffuser ça sur Snapchat, un réseau social de jeunes, de très jeunes même. Et ils se sont enfuis, ils sont partis, certains en train, et puis ils sont allés faire leur petite vie. Louis a fait 3 à 4 jours de coma et il est décédé mardi après-midi dans les bras évidemment de sa famille effondrée comme on peut l'imaginer. Nous, on a découvert cette affaire hier matin. On a été prévenu qu'un enfant avait été tué aux alentours de Narbonne. Et le plus difficile dans cette histoire, en fait, il y a deux choses qui sont véritablement difficiles. La première, c'est que c'était un enfant qui a été placé au sein de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est anciennement la DAS. Donc c'est un enfant qui était pris en charge par l'État parce que la famille ne pouvait pas forcément le faire ou avait des difficultés pour le faire. Donc aujourd'hui, en fait, vous confiez votre enfant à l'État et on vous le rend dans le coma. Voilà, en fait, aujourd'hui, la situation de notre État, c'est ça. C'est que On sait qu'à l'aide sociale à l'enfance, il y a de grosses dérives au niveau, par exemple, de la prostitution, au niveau des violences, au niveau du proxénétisme. Mais maintenant, on a en plus une affaire Louis. On a un enfant qui rencontre d'autres gamins qui sont totalement désensibilisés, totalement dénoués d'empathie, parce que désolé, mais quand vous en êtes à lyncher au sol un enfant, à le laisser pour mort et à partir le lendemain, et à partir dans la nuit, en fait, en le laissant pour mort dans un chantier, c'est-à-dire que c'est un ouvrier du chantier qui a découvert Louis le samedi matin au petit jour. Donc on imagine la souffrance de ce garçon tout le long, qui pendant des heures a agonisé en fait sur un chantier. Apparemment, il s'agirait d'ailleurs d'un guet-apens. Louis fréquentait ces jeunes-là, et c'est la deuxième chose qui, moi, me fait énormément de mal, c'est que c'était un jeune homme isolé, un jeune homme fragile, décrit comme fragile, qui a trouvé un groupe en fait de grands méchants, voilà, qui a trouvé un groupe de méchants, de racailles. Les visages d'ailleurs sont en train doucement de sortir, hein. C'est normalement de jeunes issus de l'immigration, hein, qui ont tué Louis par lynchage, et Louis était devenu visiblement leur souffre-douleur. Il avait porté plainte quelques jours auparavant pour justement des faits de violence qui avaient été faits sur lui. Et d'ailleurs, dans l'extrait que ces jeunes ont diffusé sur Snapchat où ils le lynchent, on entend bien justement qu'ils lui reprochent d'être allé porter plainte. Voilà, donc on peut imaginer que le premier lynchage avait été fait par le même groupe. Donc Louis était devenu un souffre-douleur. Et d'ailleurs, le lynchage qui a conduit à sa mort, la police explique que ce serait une vengeance liée sans doute au fait qu'il avait porté plainte. Donc vous êtes placé au sein de l'ASE, vous vous retrouvez avec des jeunes issus de l'immigration totalement désensibilisés qui ont la chance d'être dans un pays comme le nôtre où justement l'ASE, qui normalement dans un monde normal devrait les sauver parfois ou les protéger de leur famille, et bien là justement non, mène à ce qu'ils deviennent encore pires et à ce qu'ils tuent d'autres jeunes. Voilà l'état de notre état actuel, et moi ça me met vraiment vraiment en colère, parce qu'aujourd'hui il y a des parents qui pleurent leur fils, il y a des familles qui sont endeuillées. Heureusement c'est une famille qui va se battre, qui va visiblement ne pas se laisser faire et dénoncer les insuffisances dont ont été victimes leur fils, et puis cette tant sauvagement. Et puis de toute façon, nous allons continuer à suivre cela de près. Je pense que vous en parlerez évidemment sur Radio Courtoisie. Mais voilà, désolé pour ma dernière chronique, ce n'est pas une chronique très joyeuse, mais le combat continue, les amis. On se retrouve évidemment à l'année prochaine avec encore plus d'énergie.
Merci beaucoup Alice, et merci beaucoup aussi du travail que vous faites justement pour rendre public et diffuser ces informations, ces tristes chroniques de l'actualité. Mais comme vous le dites, on continue à se battre, on continue à garder espoir, et ça c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup Alice, et écoutez, on vous dit bien sûr à la saison prochaine.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'Ogym, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, nous recevons notre journaliste Julie Solveig. Bonjour Julie.
Bonjour Alexandre.
Alors vous venez nous parler aujourd'hui de l'association Fier and Queer. Pour rappel, le 6 juin dernier, au lendemain seulement de l'autopsie qui a confirmé la mort de la petite Liana, a eu un événement qui a profondément choqué de nombreux Français. Lors de la marche des fiertés de Saint-Quentin, dans l'Aisne, des drag queens de l'association Fier and Queer ont en effet trouvé bon ton de réaliser un spectacle aux abords de la basilique de la ville, devant de nombreux jeunes enfants. On a ainsi pu voir se dandiner des hommes grimés en femmes, soutien-gorge et string en latex par-dessus des tenues de dentelle, mais surtout, une chanson a particulièrement suscité l'indignation. Alors je vous laisse expliquer en détail cette affaire, Julie Solveig, vous indiquez les nouveaux éléments que vous, vous avez dégoté au cours de votre enquête concernant cette association.
Ah oui, c'est un événement dont nous avons déjà parlé ici à l'antenne, notamment au micro de Pierre-Alexandre Bouclet dans l'émission Restons Courtois. Comme vous le disiez, le 6 juin dernier, l'association Fier and Queer a provoqué l'indignation en envoyant des drag queens réaliser un show juste devant la basilique de Saint-Quentin. Entre divers gestes obscènes, où l'on a notamment vu une drag queen mimer un geste de masturbation et sortir une cravache, des paroles d'une chanson qui évoque la pédophilie ont été entendues. On a en effet pu entendre les paroles suivantes « J'aime en secret tripoter mon fils ». Ouais, c'est... Alors, il est important de souligner qu'il s'agit là d'une chanson du groupe Sexy Sushi qui s'appelle « J'aime la France », une chanson qui attaque de manière très frontale les catholiques et, disons-le franchement, les hommes cis, blancs, hétéros. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit là, évidemment, d'une provocation plus que limite de l'association qui joue là sur une ambiguïté profonde en s'attribuant, via les gestes obscènes dont je vous parlais à l'instant, les propos de cette chanson devant des enfants.
Alors, pourtant, face au tollé, l'association et ses partisans se sont défendus en disant qu'il n'y avait pas d'enfants lors de ce happening, comme vous l'écrivez de manière très anglaise.
Pardon. C'est Richard de Sèze qui va être content. Alors oui, et c'est justement une des premières choses à rectifier concernant cette affaire. Il y avait bien de nombreux enfants lors de cette action de Fier and Queer, où on pouvait par ailleurs, je le souligne, voir les fesses d'une drag queen habillée court. Dans les colonnes du Figaro, on apprend grâce à un paroissien, Florent Delaporte, qui a par ailleurs lancé, qui avait lancé une pétition réclamant le déplacement de la manifestation, que le parterre était rempli d'enfants. Je vous lis son témoignage. Ce jour-là, je suis allée prier avec des amis et je peux vous dire qu'à l'intérieur de la basilique, c'était un enfer. On entendait la musique, les cris, mais on ne s'attendait vraiment pas à de telles paroles alors qu'il y avait plein d'enfants autour. Fin de citation. Cette information a été corroborée par le député du groupe Rassemblement National, Eddie Casterman, qui a saisi le procureur après le spectacle de drague et que nous avons contacté.
Alors, on a assisté devant la basilique de Saint-Quentin, provocation supplémentaire, à un spectacle, si on peut appeler ça comme ça, de drag queen qui était à mes yeux obscène et inapproprié à l'espace public, notamment au regard du public qui était présent, puisqu'il y avait un parterre d'enfants devant ce spectacle où on voyait un drag queen en tenue épouvantable proférer des paroles d'une chanson en disant « j'aime en secret tripoter mon fils ». Donc peu importe si on prend ces paroles au premier ou au second degré, moi j'y vois en tout cas au regard du public présent, une forme de corruption de mineurs sur le fond, et puis en plus de ça, sur la forme, les paroles dégoûtantes étaient associées à des gestes obscènes sur scène.
Par ailleurs, le député a également confié posséder des photos qui prouvent la présence d'enfants à ce moment-là. Ceux qui disent le contraire mentent donc de toute évidence.
Ça change quand même la donne parce que ouais. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais le spectacle était franchement pas un spectacle pour enfants.
Oui, ça on peut le dire. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça que Eddie Casterman a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40. Alors pour nos éditeurs, l'article 40 dit que quand une personne publique ou politique constate un délit, elle se doit de le signaler au procureur de la République.
J'ai décidé donc de saisir le procureur de la République pour que, en effet, la lumière soit faite sur ces éléments. D'autant plus que allier dans ce contexte du spectacle, allier à ces gestes, à ces paroles, on a aussi assisté à des provocations à la haine à l'égard de personnalités politiques. Je pense à Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui ont vu leur effigie être déchirée, être écrasé sur des affiches, sur des stickers, sur des bulletins de vote mimés. Et donc, pour tous ces éléments, c'est pour ça que j'ai saisi le procureur de la République pour que ce genre de propos, d'incitation à la pédophilie, si on prend la phrase qui a été prononcée dans son sens strict, soit tout le moins de corruption de mineurs au regard de la situation et d'incitation aussi à la violence et à la haine à l'égard de personnalités politiques, soit sanctionné.
Pour l'heure, le procureur n'a pas encore fait de retour à Eddie Casterman, mais cet article 40 pourrait aboutir à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Il est en revanche une structure qui a répondu aux critiques. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'association Fier and Queer, elle-même.
Alors, qu'a-t-elle dit ?
Alors, sur son site, l'association a diffusé plusieurs communiqués à l'endroit de ses détracteurs. Tantôt, l'association se comporte tout simplement à Michel-Ange. Ah oui. Voilà comment elle se défend. Nous ne savons pas s'il faut rire ou pleurer du fait que ces personnes ne connaissent sans doute pas la chapelle Sixtine en plein cœur du Vatican, chapelle comportant les fresques de Michel-Ange composées d'une multitude de personnages, dont Dieu, pour certains totalement nus, fesses, organes génitaux à l'air. Peut-être faudrait-il penser à lancer une pétition pour éloigner du Vatican les fresques de Michel-Ange. Dans une autre publication, l'association explique qu'il s'agissait là d'une caricature, d'une satire visant à dénoncer certains comportements conservateurs et égoïste, réactionnaire, homophobe et hypocrite, des comportements horribles qui se cachent derrière la morale chrétienne et qui la salissent, écrivent-ils. Ajoutant que c'était une manière, au fond, de dénoncer la pédophilie, et ce n'est même pas une blague. Alors peut-on rire, faire de la satire sur le sujet de la pédophilie ? À cette question, le député Eddie Casterman répond sans embâge.
En fait, moi je vous dis quelque chose, que ce soit au premier ou au second degré, il n'en reste pas moins que les paroles qui ont été prononcées sont dégoûtantes, heurtantes, notamment aussi quand elles sont alliées à des gestes obscènes et devant un public d'enfants et devant une basilique. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, ce genre de sujet, notamment dans le contexte actuel, où on a eu l'affaire Liana, où on a 70 000 plaintes en attente de traitement sur des violences sexuelles sur enfants, sur mineurs, quand on a le scandale du périscolaire, le scandale de l'ASE, en fait, ce sujet de la pédophilie ne mérite aucune ambiguïté et je pense aussi aucune ironie. Donc en réalité, se cacher derrière la production artistique et l'ironie pour pouvoir dire ce genre de d'obscénité, moi je ne l'accepte pas. Donc c'est pour ça que je considère que ce genre de propos n'a pas sa place sur la place publique et d'autant plus quand cette ironie est en effet une ironie relative, puisqu'il y a bien une attaque, et c'est la volonté d'ailleurs politique de cette association, d'attaquer une partie de la population, puisque en l'occurrence, cette chanson accuse les pères de famille, bien sous tout rapport, catho, français, patriotes, voilà, d'être en réalité des pédophiles cachés qui aiment en secret tripoter leur côté. Donc ça, moi, je ne l'accepte pas non plus, et c'est ce qui m'a heurté aussi en tant que père de famille. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement j'ai fait aussi cet article différent, puisque je l'ai fait à la fois en tant que député, mais aussi en tant que père de famille, puisque je n'ai pas envie que mes enfants assistent à ce genre de spectacle sur la voie publique.
Alors peut-on parler alors de corruption de mineurs comme le suggère le député ? Ce sera au procureur de la République de trancher. Mais tout de même, cette saisie du procureur, additionnée à la révélation de ces images donc obscènes, aura eu déjà le mérite de soulever le couvercle et d'en découvrir davantage sur cette association jusqu'ici passée un peu sous les radars.
Et vous me disiez en effet en off que le véritable scandale était à trouver du côté des soutiens de cette association.
Alors oui, pour entrer dans le dur du sujet, et que j'avoue qu'à titre très personnel, cela m'a profondément étonné, cette association bénéficie d'une complaisance et d'une largesse franchement étonnante de la part, eh bien, de l'État.
Comment ça ?
Alors, excusez-moi, je me suis perdue dans mes notes. Alors, la première chose, c'est que, un, l'association défiscalise. J'ai pu découvrir cela dans le cadre de la grosse enquête menée par Radio Courtoisie sur la défiscalisation des associations d'extrême gauche. En clair, faire un don à Fear and Queer permet une réduction d'impôts et donc un manque à gagner pour l'État. Cela a été confirmé par l'association Fear and Queer que nous avons contactée. Voici sa réponse, je vous la lis pour que vous compreniez son importance. À ce jour, nous n'avons pas de document de rescrit fiscal à vous adresser. En effet, dans le cadre d'une demande de rescrit fiscalité, l'administration fiscale dispose d'un délai de réponse de 3 mois à compter de la réception d'un dossier complet. Passé ce délai, et en l'absence de réponse de l'administration, l'association peut émettre des reçus fiscaux sous réserve du respect des conditions prévues par la réglementation applicable. Il ne s'agit donc pas d'une attestation systématiquement délivrée par l'administration fiscale. En l'absence de réponse formelle de sa part dans le délai imparti, l'association peut délivrer un reçu fiscal au donateur, mais elle ne dispose pas pour autant d'un document administratif spécifique à transmettre. En clair, l'association a fait une demande de rescrit fiscal et l'administration n'a pas répondu à cette demande, ce qui implique une acceptation tacite. C'est ce que nous explique l'avocat Pierre Gentillet, que nous avons contacté pour nous expliquer cela.
L'explication qui est fournie par cette association, c'est qu'elle n'a pas eu de réponse de l'administration fiscale, et à défaut de réponse de l'administration fiscale, puisqu'elle a sollicité un rescrit, c'est-à-dire une demande officielle à l'administration pour émettre des reçus fiscaux, il est vrai que si l'administration ne répond pas dans les délais, alors l'absence de réponse vaut un accord tacite. Donc ce qui est dit est tout à fait juste. Et c'est là où la faute, selon moi, est évidemment du côté de l'administration fiscale. Puisque pour une association comme celle-ci, on ne peut que se poser des questions sur sa capacité à émettre des reçus fiscaux. Encore une fois, chaque association suppose de faire une analyse juridique au cas par cas. Mais il y a quand même des éléments au premier abord qu'on peut identifier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que l'administration fiscale considère comme une association d'intérêt général, il ne faut pas le lire trop vite, puisque une association d'intérêt général, c'est d'intérêt général au sens où le définit l'administration fiscale. Et l'intérêt général, je le rappelle, vous pouvez lire ça à l'article 200 du Code général des impôts, ce sont des associations à caractère culturel, scientifique, sportif, éducatif, environnemental. Vous avez une dizaine de critères. Et au cas particulier, le fait ici de promouvoir les droits des minorités sexuelles que sais-je, ça ne me paraît pas de prime abord entrer dans la catégorie de l'intérêt général au sens où le définit l'administration fiscale, vous voyez. Donc déjà, il y a des gros doutes de prime abord. Donc c'est très étonnant que l'administration n'ait pas répondu. Moi, je vais vous donner mon exemple de ma pratique, puisque ma pratique, c'est le droit des associations, et notamment cette question d'éligibilité des reçus fiscaux. Quand il arrive que des clients, c'est rare, mais sollicitent un rescrit fiscal, ce que je déconseille, puisque l'administration a une position restrictive, je n'ai jamais vu, moi, de toute ma pratique, l'administration ne pas répondre à une demande.
Donc, premier jamais, point...
Puisque c'est ce que je vous dis, ça vaut un accord tacite.
Donc, premier point, pardon, soutien de l'État via la défiscalisation étonnante de l'association.
D'accord. Et ensuite, le deuxième point.
Deuxième point, l'association bénéficie du soutien de la maire LR de Saint-Quentin, qui octroie depuis 3 ans à Fear and Queer le lieu où a eu lieu le happening qui a tant scandalisé. Dans les colonnes du Figaro, voici ce qu'explique l'association, je cite. Ce lieu nous est octroyé par la mairie, un square sympa qui jouxte la basilique un peu clos où nous avons installé notre drag show. Des propos confirmés par la maire LR auprès du Quotidien, qui dit « La liberté de manifester est un droit constitutionnel. Cette chanson, celle dont nous parlions au début, n'est clairement pas de bon goût, mais c'est une dénonciation et non une apologie. C'est absolument déplorable d'utiliser cela pour créer des polémiques de toutes pièces plutôt que de chercher à préserver les droits des enfants, des femmes et des homosexuels. »
On croit rêver.
Et c'est pas tout, attendez. Troisième soutien, l'association est subventionnée par la CPAM de l'Aisne, la Caisse primaire d'assurance maladie. Grâce à ce soutien, l'association a par exemple pu, je cite, « avoir le plaisir de proposer 10 ateliers gratuits de sensibilisation EVARS, donc dans les écoles, autour d'un jeu qu'elle a créé pour éduquer les enfants. »
Et EVARS, c'est éducation à la vie affective et aux relations sexuelles.
C'est ça, exactement. Affective, relationnelle et à la sexualité. Mais surtout, et c'est peut-être ça le plus étonnant, l'association dispose depuis 2025 d'un agrément éducation nationale pour le second degré. Cet agrément, agréé par l'Académie d'Amiens, permet officiellement à Fear and Queer de proposer des ateliers aux collégiens et aux lycéens pour, je cite donc officiellement, transmettre des connaissances sur la sexualité et la santé, favoriser des choix éclairés et responsables et lutter contre les discriminations. Mais dans les faits, il suffit de faire un tour sur le site de Fear and Queer, dont les étendards sont, on l'a vu, notamment des drag queens, donc des hommes déguisés en femmes, rappelons-le, pour comprendre toute la propagande et le parti pris idéologique dont fait preuve cette association.
Est-ce que vous avez quelques exemples ?
Alors on pourrait faire une liste à la Prévert de tout ce qu'on trouve sur le site de Fear and Queer, des expositions tournées vers la mise en avant du sexe, promotion d'événements de drag queen, présentation du livre de David Williams, Le jour où je me suis déguisée en fille, avec un héros de 12 ans, promotion d'un film sur une ado lesbienne et musulmane qui s'interroge sur son identité, etc., etc., etc. Mais un des éléments qui m'a le plus interpellé sur leur site est glissé, se cache, dans un de leurs articles annonçant leur prochain café philo queer. Je vous lis la note. La visibilité LGBTQIA+ est souvent présentée comme une conquête, mais peut-elle aussi devenir une nouvelle norme, une nouvelle assignation ? En clair, cette association qui participe à la formation de nos enfants aspire ni plus ni moins à faire du LGBTQIA+, la norme de notre société hétéronormée. On peut donc s'étonner, à l'instar du député Eddie Casterman, d'un tel soutien massif et complaisant de nos institutions.
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un soutien à plusieurs niveaux et à plusieurs égards. En effet, comme vous dites, il y a un soutien de l'État qui est financé indirectement, en effet, par les reçus fiscaux et la déduction fiscale qui peut être accordée, mais qui est un soutien financier aussi positif, puisque au titre de plusieurs programmes et de plusieurs possibilités de financement, cette association est financée par les deniers publics. Comme vous l'avez dit, la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre du programme EVA, donc le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, qui est distillé dans nos écoles, qui est en fait un programme qui vise à répandre la théorie du genre et d'autres délire woke dans nos écoles. En fait, au titre de ce programme, la Caisse primaire d'assurance maladie finance cette association pour qu'elle intervienne justement dans les collèges et les lycées, en tout cas du département de l'Aisne. Cette association est aussi financée par d'autres leviers nationaux, comme le Fonds développement à la vie associative. Voilà, il y a plusieurs leviers qui font que cette association est financée positivement par l'argent du contribuable, c'est-à-dire votre argent à vous, le mien et ceux de tous les contributeurs français. Et puis après, il y a un soutien aussi politique de principe, hein, par le ministère, par d'autres organisations politiques. Il y a des collectivités aussi qui soutiennent logistiquement, financièrement. C'est le cas de la mairie de Saint-Quentin, et c'est Claire Géronimi qui est élue à la mairie de Saint-Quentin, qui a interrogé Madame le maire de Saint-Quentin pour avoir toute la lumière sur ce sujet et aucune réponse n'y a été pour l'instant apportée. Voilà, et ce soutien politique, il doit cesser. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut arrêter. Et c'est ainsi aussi que j'ai interpellé le ministre de l'Éducation nationale au travers d'un courrier pour que justement l'agrément accordé à cette association soit retiré pour que cette association ne puisse plus intervenir, notamment au regard des propos qui ont été tenus, des gestes qui ont été tenus lors de ce spectacle de Drag Queen à Saint-Quentin, que cette association n'intervienne plus auprès de nos enfants, auprès de nos collégiens, de nos lycéens, qui n'ont pas assisté à ce genre de dérive obscène.
Alors par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on peut en effet poser la question très concrète de la conséquence de ces ateliers donc sur le psychisme et la construction de nos adolescents.
Eh bien, figurez-vous, Alexandre, que je me suis posé exactement la même question. Alors, j'ai contacté Séverine Dumini, coordinatrice nationale de l'association des parents vigilants et professeure de mathématiques dans un lycée. Pourquoi l'avoir contactée ? Car voilà près de 2 ans que l'association Parents Vigilants interpelle le ministère de l'Éducation nationale et alerte sur l'association Fier and Queer et les dangers que cette association pourrait représenter pour nos jeunes en raison des ateliers qu'elle mène sur des sujets très intimes. Je vous laisse l'écouter.
Quand vous avez dans une école des propos qui sont tenus dans un cadre officiel, dans un cadre scolaire, qui rentre en plus dans une obligation maintenant depuis la rentrée 2025 d'un enseignement obligatoire, ça a donc forcément un impact sur les jeunes, d'autant plus que ces enseignements sont dispensés alors avec des programmes qui évoluent en fonction de l'âge, mais qui sont dispensés désormais dès la maternelle. Donc, au fur et à mesure des années, à force d'entendre certains discours, on peut évidemment penser qu'il peut y avoir des conséquences sur leur perception de l'intimité et qu'en plus, les parents n'ont pas leur mot à dire puisque dans la grande majorité des cas, les parents ne sont pas informés de la tenue de ces séances, ne savent pas quand elles ont lieu, ne savent pas qui vont assurer les séances. Donc tout ça, c'est dans le dos des parents.
Alors pour rebondir sur ce que l'on vient d'entendre, il faut rappeler que Fier and Queer n'a pas le droit, pour l'heure, d'intervenir dans les écoles ou dans le primaire. Cependant, nous révèle Séverine Dumini, l'association en a fait la demande, ce qui, selon la coordinatrice nationale de Parents Vigilants, montre bien le dessein politique de Fier and Queer.
Mais il faut voir en plus que sur l'agrément qu'ils mettent en avant, c'est une réponse donc, par le rectorat suite à un courrier donc de l'association qui demandait à intervenir même dans les écoles primaires. Et là, le rectorat a répondu que non, il n'avait pas l'agrément pour intervenir dans les écoles primaires, mais seulement dans les collèges et les lycées. Donc on voit bien l'intention, la volonté de ce type d'association d'intervenir au plus tôt sur les enfants avec un âge le plus jeune possible pour justement faire passer leurs idées très tôt, puisqu'on sait que les enfants sont malléables, n'ont pas encore un esprit critique, et donc ainsi pouvoir diffuser leur vision de la société plus facilement.
Alors effectivement, c'est particulièrement inquiétant, reconnaissons-le, il faudra suivre ça de près.
Oui, d'autant plus qu'il faut tout de même rappeler deux éléments importants. Comme le soulignait très justement Jean-Yves Gana dans une vidéo à ce sujet, les associations LGBT ont une certaine propension à attirer des pédophiles. Attention, à aucun moment nous ne disons que ces associations sont remplies de pédophiles, simplement, à l'instar du périscolaire parisien, elles en attirent plus que la moyenne puisqu'elles sont davantage au contact d'enfants. Le cas le plus emblématique de ces dernières années est celui de Pierre-Alain Cottineau. Vous le savez, ce militant LFI, assistant maternel et militant LGBT qui a été mis en examen pour viol sur mineur et torture pédocriminelle infligée à des enfants de moins de 6 ans, parmi lesquels une fillette handicapée de 4 ans. Eh bien, Pierre-Alain Cottineau n'était ni plus ni moins que le président de l'ESSAC durant plusieurs années, l'association LGBTQIA+, du pays d'Anse Nice, en Loire-Atlantique.
C'est tout simplement ignoble. Et donc vous parlez d'un deuxième élément?
Oui, le deuxième élément que j'ai déjà évoqué avec vous par le passé dans mes enquêtes sur le périscolaire et qui justifie selon moi qu'il faut redoubler de vigilance avec ces associations-là, qui comportent notamment des dragues, donc des hommes déguisés en femmes, tels que Fear and Queer, et qui interviennent auprès des jeunes, c'est tout simplement que les auteurs masculins dominent dans les cas de violence sur mineurs. Pour ne citer qu'une étude, en France, le Haut Conseil à l'égalité résume ainsi dans son rapport qui s'appelle « Mettre fin au déni à l'impunité face aux viols et aux agressions sexuelles », le chiffre judiciaire récent, 97% des mises en cause dans les affaires de violence sexuelle faites aux enfants sont des hommes. Reste désormais à savoir ce que décideront le procureur de la République et le ministère de l'Éducation nationale après les multiples alertes et saisies qui leur ont été adressées. Pour l'heure, aucun des intervenants que nous avons contactés n'ont eu de réponse de leur part.
Eh bien, merci beaucoup pour cette enquête qui pose bien des questions et desquelles on attend bien des réponses aussi, Julie Solveig. Et on vous dit bien sûr à bientôt pour suivre un petit peu l'actualité de tout ça.
À bientôt.